Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Ce sont les Equals, célèbre groupe multiculturel dans les années 60 qui viennent d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires. Cette formation composée de Guyanais, Jamaïcains et Londoniens est l'un des symboles des échanges intercommunautaires qui ont nourri l'expressivité des musiciens au fil des décennies, comme nous le raconte l'exposition Paris-Londres-Musique-Migration présentée jusqu'en janvier 2020 au Musée de l'Histoire et de l'Immigration à Paris, où nous nous trouvons cette semaine et que nous allons vous faire découvrir avec nos interlocuteurs du jour, à commencer par Angéline Escaffé-Dublé, commissaire scientifique de l'exposition Paris-Londres-Musique-Migration 1962-1989. Merci de nous accueillir.
Bonjour, merci à vous.
Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler l'intention, l'enjeu de cette exposition ?
Alors, on a voulu vraiment montrer à quel point Paris et Londres se ressemblaient plus qu'on ne le pensait, et en particulier à travers les migrations qui ont caractérisé ces villes. L'idée, c'est de montrer à travers la musique comment les migrations ont transformé Paris et Londres d'anciennes capitales d'empire à des métropoles aujourd'hui internationales qui mettent en avant la diversité dans leur image.
Est-ce que vous diriez que cette exposition est militante à une époque où le repli sur soi devient un réflexe, notamment en Europe ?
Elle est peut-être militante dans la mesure où elle montre à quel point la musique permet aux gens de se retrouver, d'être ensemble et aussi de faire corps face effectivement à des situations peut-être difficiles. Donc c'est effectivement un militantisme pour plus de solidarité que de repli sur soi.
Cette exposition est-elle chronologique ?
Alors oui, notre idée a été vraiment d'essayer de plonger le visiteur dans différentes ambiances historiques. Donc les années 60, les années 70 et les années 80, chacune caractérisée par des styles musicaux différents, mais aussi une esthétique, un style, donc des ambiances très différentes pour des décennies très différentes.
Donc vous allez nous faire visiter cette exposition. À partir de quel moment perçoit-on musicalement les migrations maghrébines et subsahariennes à Paris ?
Alors, dans les années 60, en France, on est surtout touché par la culture rock'n'roll. Et c'est donc plus les codes afro-américains qui marquent. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est quand même que l'immigration, elle commence déjà à marquer des trajectoires. Les musiques qui vont arriver en France sont les musiques des cafés maghrébins des années 60 qui sont exposées un peu plus loin dans l'exposition.
Diriez-vous que Paris est une plaque tournante dans les années 60 ?
Alors, certainement, une plaque tournante des mouvements migratoires. Il y a, la France est un pays d'immigration depuis longtemps, depuis le 19e siècle, a eu besoin de faire appel à une main-d'œuvre étrangère, qu'elle vienne de Belgique, d'Italie, d'Espagne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ses origines migratoires se diversifient. Il y a beaucoup plus d'immigration qui arrive des anciennes colonies, donc Maghreb, mais aussi Afrique noire. Et Paris est une plaque tournante dans le sens où il y a une diversité à nul autre pareille dans cette ville. C'est-à-dire qu'il y a des immigrations venues de tout le bassin méditerranéen, que ce soit à Lille, Lyon, Marseille, mais vraiment à Paris, c'est là que se concentre la plus grande diversité. C'est là qu'on va trouver à la fois des immigrés qui viennent d'Asie, d'Afrique, mais aussi d'Orient, Turquie, d'Europe de l'Est, de Russie, d'Amérique latine, d'Afrique. Donc il y a vraiment une diversité encore plus grande, et cette diversité elle va se ressentir dans les musiques qui vont être présentes.
Nous en parlerons tout à l'heure avec Martin Evans, mais peut-on dire que Paris et Londres ont connu simultanément des révolutions musicales liées aux migrations ?
Alors oui, quand on est historien, moi je suis historienne de l'immigration de formation, à travers la musique, on retrouve cette chronologie des arrivées. Elle illustre parfaitement cette succession de vagues. Donc oui, les musiques sont vraiment une manière d'exprimer, de refléter les arrivées des migrations. Elles ont un caractère révolutionnaire.
Pourquoi avoir justement choisi l'angle de la musique pour évoquer les migrations et les échanges intercommunautaires ?
Parce que parmi d'autres formes artistiques qui vont toutes représenter l'expérience de l'immigration, la musique, c'est celle qui va aussi permettre aux gens d'être ensemble, aux gens de se rencontrer. Dans la musique, on peut se retrouver. C'est pour ça que l'importance du rythme est là. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui souvent sont un message, mais il y a aussi quelque chose qui permet aux gens de se retrouver, de danser. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé par l'arrivée dans un club de danse. C'est pour dire que la musique, on va raconter à quel point elle marque des destinées d'artistes, mais elle marque aussi les gens dans sa diffusion, dans son impact sur les populations. Donc c'est la musique qui a pu faire résonner la présence des immigrés dans la ville de Londres comme dans la ville de Paris et qui a permis de prendre conscience de cette présence. Il faut bien comprendre que la présence de l'immigration, la question de l'immigration, c'est une mise en visibilisation progressive. Dans les années 60, on ne réalise pas vraiment qu'on est, que ce soit en Angleterre ou en France, des pays d'immigration. Maintenant, ça nous paraît une évidence. Mais ce chemin, il a été notamment tracé par les formations musicales.
Quelle différence êtes-vous entre le Paris des années 60 et le Paris des années 80 ?
Je pense que Paris est toujours cette ville de la diversité, de l'arrivée des migrations. Paris est toujours une ville qui accueille. On a aujourd'hui, les derniers recensements montrent 20% des Parisiens sont nés à l'étranger, 16% pour la région d'Île-de-France, contrairement à 8,5% pour l'ensemble de la France. Donc Paris est vraiment une ville, continue à être une ville d'accueil et ville d'accueil des primo-arrivants, des gens qui ont encore la nationalité de leur pays d'origine. Donc ça, ce caractère multiculturel, on le trouve aussi à Londres. C'est-à-dire que c'est aussi une ville qui, dans les années 60, est la ville qui a le plus d'immigration venue des anciennes colonies devenues indépendantes, donc à la fois Antilles, mais aussi les pays Inde, Pakistan, Bangladesh. Donc elle a gardé ce caractère multiculturel. Mais elles sont différentes aussi parce qu'elles se sont gentrifiées, notamment. C'est le cas de la ville de Londres qui, dans les quartiers les plus centraux, étaient des quartiers très accessibles. Beaucoup d'immigrés, en particulier antillais, se sont installés à Notting Hill ou Brixton, qui sont des quartiers du cœur de Londres. Aujourd'hui, Notting Hill, c'est devenu extrêmement huppé. Donc ce sont des villes qui se sont transformées aussi parce que dans le mouvement des villes et des capitales en général, les centres sont devenus de plus en plus difficiles d'accès, onéreux. Mais on y retrouve quand même cette effusion, cette diversité, et notamment Londres et Paris restent des capitales du divertissement, de la musique, de la production musicale, de la diffusion musicale à travers les clubs, les salles de concert.
Juste derrière nous, il y a une vidéo de Millie Small qui chante Lollipop, une chanson plutôt, on va dire, inoffensive. Est-ce que la radicalisation de la musique est l'écho des bouleversements sociaux à Paris et à Londres ?
Alors effectivement, la chanson de Millie Small est une reprise d'abord, donc plutôt une chanson d'amour. Mais il faut savoir qu'après, Millie Small a été aussi porte-parole des musiques jamaïcaines. Elle est jamaïcaine d'origine et elle a aussi chanté des chansons un petit peu plus contestataires, comme contre Enoch Powell, qui est ce politicien qui avait eu des propos particulièrement racistes en 1968 en Angleterre. Donc d'abord, il faut considérer que le fait même qu'on entende ces musiques, c'est déjà un acte en soi. Le fait même que Millie Small atteigne les charts en 1964, soit la tête des charts anglais, c'est déjà une affirmation de la présence de cette migration jamaïcaine. Donc la Jamaïque n'est indépendante que depuis 2 ans, et donc l'importance musicale de la Jamaïque. Mais évidemment, ce qu'on a voulu montrer, c'est, puisque je disais que la musique, ça permet aux gens de se rassembler, bah, ça va aussi leur permettre de lutter ensemble. Donc les paroles des chansons vont se faire aussi de plus en plus revendicatives. Mais nous, on a voulu distinguer artistes issus de l'immigration, formes musicales qui parlent de l'immigration, et ensuite formes musicales qui peuvent être interprétées par des artistes qui n'ont pas de lien avec l'immigration, hein, je pense au Clash en particulier, mais qui disent quelque chose du racisme et de ces combats-là. Donc on essaie vraiment de couvrir, hein, toutes ces facettes de la musique comme effectivement instrument de lutte aussi.
Angeline Escafé Dublé, je vous propose qu'on écoute Millie Small, Lollipop, et on se retrouve dans quelques instants. Angeline et Escafé Dublé, où sommes-nous là ?
Alors nous sommes dans le studio, l'atelier des musiciens. C'est une petite pause dans l'exposition entre les années 60, les années 70, les années 80. Bah, on immerge les visiteurs dans un espace où les musiciens travaillent. On diffuse l'enregistrement de la chanson « The Hard As I Come » dans un film de Jimmy Cliff où il raconte sa propre histoire. On a choisi aussi cet extrait parce qu'on voit à quel point bah, voilà, ces musiciens jamaïcains, ils ont aussi un peu été exploités parce que dans cet extrait, on voit qu'il n'est pas payé très cher pour ce qu'il chante. Hein. Il y a quand même une dimension d'appréciation de ces musiques-là qu'on veut traiter.
Nous allons nous déplacer vers les années 80. Pourquoi dit-on justement que les années 80 ont été celles de l'Afrique à Paris ?
Alors, dans cette exposition, quand on s'est intéressé voilà, au rôle de la musique, des migrations, il y avait vraiment quelque chose sur Londres dans les années 70. Et Paris arrive un peu en pole position sur les musiques africaines dans les années 80. Ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, c'est pas par hasard, et on pense que c'est quand même ces années de lutte, c'est l'émigration et le besoin de trouver du travail, hein, qui ont fait que beaucoup de ces musiciens d'origine africaine sont arrivés à Paris, mais c'est sans doute les luttes qui ont fait que leurs identités, leurs musiques sont venues un peu plus au devant de la scène. Donc on parle de ce festival Africa Fête, qui au départ est un festival pour un moment militant, hein, pour défendre les immigrés qui d'Afrique subsaharienne, qui vivent dans des conditions, dans des foyers, des conditions difficiles, mais qui vont utiliser la musique pour faire connaître leur combat et de fait bah, aussi diffuser la musique. Africa Fête, ça va devenir un véritable festival de musique qui va être un tremplin pour de nombreux musiciens. Et c'est le résultat de ces années de lutte, de mise en connexion qu'on trouve dans les années 80. Il y a aussi voilà, une société qui a évolué, hein, tous les indices d'opinion le montrent, une plus grande tolérance aussi. et une plus grande ouverture aux musiques venues d'ailleurs. Et il se trouve, ces musiques venues d'ailleurs, elles sont même déjà présentes dans la capitale parisienne, ce qui n'est pas toujours forcément bien perçu. Hein. Les gens pensent que ces musiciens africains, ils sont arrivés dans les années 80. En réalité, ils étaient déjà présents, ils avaient déjà constitué leur réseau, ils étaient déjà en lien avec des producteurs. Et c'est ça qui rend possible cette explosion des musiques africaines. Et là, vraiment, voilà, tous ces réseaux, toutes ces connexions, toutes ces affinités qui émergent dans la fin des années 70 vont se retrouver mises en valeur et ça va devenir de la marge, on passe à l'avant-garde et aux branchés. Quoi.
Diriez-vous que les musiques africaines que les Parisiens découvrent durant ces deux décennies ont adouci les mœurs, ouvert notre esprit?
Bah, évidemment, c'est le propos de toute exposition sur la musique, de dire que la musique fait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour les visiteurs qui viendront. Mais on a aussi voulu montrer le pouvoir, la force de ces musiques à venir porter des combats. Ce qui est sûr, et ce qu'on essaie d'évoquer aussi à la fin de l'exposition, c'est que pour des militants, le recours à la musique, s'il est souhaité, parce qu'il donne plus d'écho à leur lutte, parfois devient un petit peu complexe. Et on trouve que la musique, ça dépolitise. Et notamment quand ont lieu les grands concerts, que ce soit la SOS Racisme ou que ce soit aussi à Londres, les concerts en soutien à Mandela, il y avait aussi des militants qui trouvaient que ça dépolitisait qu'organiser ces grands concerts. Donc on est aussi dans cette tension, cette difficulté. Donc il faut essayer de retrouver ses origines, et c'est aussi le rôle de cette exposition, de montrer les racines politiques, contestataires, anticoloniales, indépendantistes de ces musiciens, de ces musiques, qui ont aussi fait leur force.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'au début des années 80 à Paris, on a l'arrivée de Morikante, de Youssou N'Dour, d'Angélique Kidjo, le sacre, on va dire, de Manu Dibango également, qui depuis 1972 propose Soul Makossa.
Exactement, il avait gagné un award aux États-Unis avec cette chanson. C'est notre, on lui consacre un petit cabinet de curiosité. Il a prêté un saxophone, certains de ses vêtements de scène. Aussi, la personnalité de Fela Kuti est très importante. Donc ces musiciens doivent beaucoup, incarnent aussi bien l'Afrique, le Nigeria pour Fela Kuti, qu'ils s'incarnent dans ces capitales que sont Paris et Londres dans ces années-là.
Je serais d'avis d'écouter Fela Kuti tout de suite. Voici Chakara.
Babone chacara pade, baixa toma fino é o gelo onde é que lo chegue o chacara o lo gelo. Jo babone chacara pade, baixa toma fino é o gelo onde é que lo chegue o
chacara o lo geni,
chacara o lo geni,
chacara o lo geni,
chacara o lo geni. Sing them like this. We go say, ah, ah, ah. Honey, 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 ah, la, la, la. My corner, eh? My corner, eh, pa? You walk, eh? Boy, team, oh, mini. Show me why baba laia ah ironi o collegia o gelo io che la sempre
sacarao lo geni
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 sacarao lo geni.
Fela Kuti, pour illustrer notre propos aujourd'hui, puisque nous sommes installés au musée de l'histoire de l'immigration à l'occasion de l'exposition Paris-Londres Musique Migration 1962-1989. Nous sommes toujours en compagnie de Angéline Escaffé-Dublé. Est-ce que vous avez vous-même appris davantage sur les liens entre la musique et la société à travers cette exposition? Et si oui, qu'avez-vous appris?
Alors moi, j'avais travaillé dans mes recherches professionnelles sur vraiment le lien entre culture et immigration, l'ensemble des arts, hein, que ce soit le théâtre. Et c'est vrai que le théâtre a beaucoup été utilisé par les immigrés dans les années 70 en France. La musique, j'ai trouvé que ça avait permis effectivement de rassembler plus, de brasser plus large. Et ça avait permis de faire connaître des combats. Moi, ce que j'aurais pas soupçonné, c'était les liens aussi forts entre Paris et Londres. C'est vrai que en histoire de l'immigration et en particulier à perspective politique, on a tendance à souvent opposer le cas anglais et le cas français. Puis on voit quand même surtout le cas anglais plus regardé vers les États-Unis. Et en fait, on a observé des circulations tout à fait passionnantes. Je pense par exemple à ce poète dub qui est Lynton Cozy Johnson, LKJ, qui s'est rendu à de nombreux événements militants à Paris, qui connaissaient les militants pour l'égalité contre le racisme en France, les marcheurs de 1983. Mais aussi, j'ai appris que voilà, Rachid Taha était très ami avec les Clash. On raconte même que les Clash auraient entendu Rachid Taha et son groupe jouer cette forme de punk sans frontières, avec des paroles arabisantes qui leur auraient inspiré Rock the Casbah. Donc ces phénomènes de circulation, vraiment, ça m'a appris la possibilité des rencontres. Et puis surtout, ce que j'ai constaté, c'est vrai que quand on a l'impression que les styles musicaux sont assez isolés les uns des autres, et en fait, en réalité, c'est pas le cas. Et quand on commence à prendre un prisme urbain, c'est pour ça que je vous expliquais la proximité spatiale dans Londres, mais aussi dans Paris, on s'aperçoit que voilà, les Clash, ils étaient amis avec Don Letts, ce musicien de reggae qui leur a fait aimer le ska, à qui on consacre aussi un cabinet de curiosité. Ils étaient amis, ils traînaient dans les mêmes bars. Donc la ville fait se rencontrer les gens de manière beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le croire dans les labels qui sont apposés aux styles musicaux.
Est-ce qu'on peut dissocier la musique de la société ?
Je pense qu'on ne peut pas effectivement isoler la société d'une musique et la musique de la société. Ce qu'on a voulu présenter, c'est vraiment l'ancrage sociétal, historique de ces musiques. C'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre la musique dans une exposition qui est proposée dans un musée de l'histoire, de l'immigration. La musique est un vecteur et on a voulu à la fois la présenter comme produite par des artistes, mais surtout diffusée et pour l'impact qu'elle a sur les individus. Donc je pense qu'à la fois la manière dont la musique reflète les préoccupations des individus, elle ne peut pas évoluer sans la société, et en même temps la société ne peut pas évoluer sans cette musique qui a porté, qui a fait exister. On doit un rôle important à la musique, à faire exister la présence des immigrés dans chacune de ces villes, et ça leur a permis à eux de s'approprier ces villes. C'est-à-dire que maintenant, la présence des enfants des Jamaïcains à Londres est évidente, la présence des seconde, troisième génération du Maghreb, mais aussi de l'Afrique à Paris est évidente. Je pense que pour toute personne qui visite Paris ou qui visite Londres, ce creuset multiculturel est évident. Et la musique, on lui doit un fier rôle pour l'avoir rempli.
Est-ce que les musiques issues d'immigration sont toujours revendicatrices ?
Pas forcément. On a voulu montrer qu'il y avait tout un éventail de propositions. Il peut y avoir des musiques qui servent à être bien entre soi, à s'amuser. Mais ce qui est intéressant, c'est quand un musicien décide de faire d'une de ses chansons quelque chose de plus revendicatif. On prenait l'exemple de Millie Small, voilà, elle reprend Lollipop. C'est un grand succès, mais elle est aussi capable de chanter Enoch Powell. On a du pouvoir contre Enoch Powell pour contester son discours raciste. Je pense que si la musique était tout le temps politique, les gens ne la suivraient pas. Il faut évidemment un éventail plus large pour plaire à tout le monde.
Quels enseignements devons-nous tirer de cette exposition ?
On a besoin de l'histoire d'abord pour connaître les origines politiques et les combats de ces individus. Aujourd'hui, je pense que les musiques du monde, puis en particulier en ce moment les musiques qui viennent d'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, ont beaucoup de succès. On a besoin d'expositions pour comprendre les origines, savoir d'où on vient, savoir d'où ces musiques viennent. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental.
Merci beaucoup Angéline Escaffé-Dublet de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps.
Mais merci à vous d'avoir accordé votre attention à cette exposition.
À bientôt.
Merci pour vos questions. À bientôt.
Et dans quelques instants, nous retrouvons Martin Evans, le commissaire scientifique britannique de l'exposition Paris-Londres, musique migration 1962-1989.
Police on my back, I've been hiding, but
L'épopée des musiques noires.
C'est Martin Evans que nous retrouvons à présent. Merci de nous accorder quelques minutes.
Bonjour.
Avec vous plaisir. Êtes commissaire scientifique pour cette exposition, professeur d'histoire européenne moderne, spécialiste de l'histoire coloniale et post-coloniale et ancien journaliste à la BBC, donc un confrère. Nous allons parler avec vous des vagues de migration à Londres, en commençant finalement par un groupe très multiculturel qui s'appelait les Equals.
Oui, effectivement, c'est un des premiers groupes multiculturels à Londres, mais ça rentre dans le sujet parce qu'effectivement, c'était un groupe qui était des amis au lycée. Donc ça, on voit l'impact de l'immigration. Donc, vous savez, c'est quelque chose qui est très intime. On voit les amitiés à travers l'école, à travers les lycées, et puis d'où vient l'idée de ce groupe avec un titre très important, l'Equals. Parce qu'étant donné le contexte des années 60 avec Enoch Powell et tout ça, donc une hostilité vraiment encadrée contre les Noirs, donc le nom était quelque chose qui était très 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 politique. Et puis la chanson même, très importante, une chanson sur la police. Et ça c'est très important comme un thème à travers l'expo. On voit le même sujet abordé par exemple par Supreme Antiem dans les années 90 dans un contexte français. Donc la police, ou l'hostilité envers la police.
L'une des manifestations réelles de la confrontation entre, on va dire, la migration jamaïcaine et la police en Angleterre, c'est le festival de Notting Hill qui se crée, je dirais, au tournant des années 60, c'est bien ça?
Oui, c'est intéressant parce que c'est une histoire assez compliquée. Il y a d'un côté un point de départ, c'était après, les confrontations entre les blancs et noirs à Notting Hill en 58, qui est devenu un événement très célèbre. Et après ça, on avait une femme militante, Claudia Jones, qui avait l'idée de monter un carnaval à St. Pancras. Donc ça, c'était un des points de départ. L'autre, c'est à Notting Hill même, autour d'un free school, qui était un school un peu... Les idées alternatives, Pink Floyd, par exemple, étaient très liées à cette école. Et c'était une femme qui s'appelle Howlett. Ça, c'était l'autre femme qui était le point de départ. Mais c'est aussi c'est important de souligner que, surtout, fin des années 60, le carnaval de Notting Hill a pris une tournure très, très, très politisée. Très, très, très politisée. Et puis, au milieu des années 70, une autre date importante, c'est comment... L'impact du reggae et des sound systems, on voit de plus en plus important à travers le Notting Hill, et puis aussi un esprit de confrontation entre des jeunes noirs et la police, surtout avec les crises économiques, le montée du racisme avec le montée du Front National en Grande-Bretagne, qui était très hostile envers la communauté noire, mais aussi en même temps un racisme institutionnalisé. L'hostilité contre la police était perçue par la communauté noire comme une institution qui était quasiment raciste. Donc il y a un aspect d'affrontement à partir des années 74, et c'est surtout l'été de 76. C'était un été chaud, et en confrontation à travers le carnaval entre des jeunes noirs et la police. Il ne faut pas oublier que le West Indies venait de remporter une grande victoire sur l'Angleterre à travers le cricket. Et le cricket était quelque chose aussi hyper politisé, quoi, perçu par la communauté noire comme un lien avec les West Indies. Donc ça, c'était très important, donc, à remporter une grande victoire sur l'Angleterre. Et puis aussi, l'été de 1976 était un été très, très chaud. Et puis, il y avait une grande confrontation entre la police et les Noirs. Par contre, par exemple, qui était le sujet de la chanson de White Riot par The Clash, parce que Joe Strummer et Paul Cinnamon étaient là, sur place, et les deux voulaient avoir leur propre émeute, mais en alliance avec les Noirs, avec les communautés noires comme ça. Donc on voit à travers The Clash l'impact et l'influence de reggae sur la jeunesse britannique. Donc une chanson très importante pour The Clash était Police and Thieves, qui était une chanson de Junior Mervyn, et l'idée que il y avait des affrontements entre les polices et les jeunes en Jamaïque, et c'était la même chose ici à Londres. Donc l'idée de Clash, c'était une alliance ensemble, les Noirs et les Blancs comme ça.
Si nous écoutions The Clash.
Oui.
Allons-y. Nous sommes toujours avec Martin Evans ici à l'exposition Paris-Londres, Musique Migration 1962-1989. Où sommes-nous là précisément maintenant ?
Maintenant, on est au studio, et dans le studio très important, on a un extrait d'un film très 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 important, The Hard As I Come, qui est sorti en 1974. C'est un film de Perry Henzel qui est un portrait de la société jamaïcaine à travers un chanteur joué par Jimmy Cliff. Et probablement c'est au même niveau que Bob Marley, mais l'impact global de The Hard They Come par rapport à l'impact global de la musique reggae, il me semble très 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 important.
Est-ce qu'on peut comparer les migrations africaines à Paris et jamaïcaines à Londres ? Est-ce qu'elles ont le même impact socioculturel sur ces deux capitales ?
Ah, ça, c'est un sujet très compliqué qu'on essaie d'aborder à travers l'expo. Ce qu'on essaie de faire ici dans l'expo, c'est de trouver les mêmes thèmes dans les deux cas. Par exemple, le racisme, l'hostilité, il y a ça. Il y a aussi des liens entre ici et là-bas. Donc l'idée d'un immigré habite deux temps différents. Par exemple, le temps en Algérie et le temps en France. Et il y a un pont, un lien entre les deux. Donc on voit à travers les deux cas, les deux contextes, même si les deux contextes sont différents, se rassemblent.
Est-ce qu'il est caricatural de dire que le festival de Notting Hill est d'abord un festival caribéen, voire un festival jamaïcain ?
Ça, c'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, c'est un mélange. C'est un très, très, très grand mélange avec l'histoire profonde. L'histoire profonde parce que, bien évidemment, la communauté noire caribienne venait d'où ? D'Afrique. Donc ça, c'est comme des esclaves. Donc ça, c'est une histoire très ancienne. À travers cette histoire très ancienne, il y a l'histoire profonde de la musique, le rôle joué par le tombeau, par exemple. Donc à travers le carnaval de Notting Hill, on peut apporter l'histoire profonde et liée entre plusieurs espaces géographiques, entre l'Afrique, les Caraïbes et puis la Grande-Bretagne. Donc ça c'est très 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 important de souligner. En même temps, il y a non seulement le reggae de Jamaica, mais c'est aussi le calypso. Le calypso très important, avec surtout à partir des années, début des années 70, les steel drums très importants. Donc on voit à travers les plusieurs courants importants sur le plan musical qui montrent, qui soulignent l'importance d'une histoire profonde. Ici, c'est l'histoire profonde à travers la musique et la nourriture en même temps.
À la fin des années 70, le mouvement punk est très important en Angleterre. Pourquoi les punks se prennent d'affection pour les Rasta ?
Ça, c'est une question très intéressante et une question compliquée. En même temps, c'est que le reggae qui a commencé en Jamaïque, la première chanson qui mentionne le reggae, c'est Toots the Maytals, ça c'est en 68. Et le reggae, c'était une musique de protestation contre l'establishment, mais en Jamaïque. Mais on voit parmi les jeunes noirs qui voyaient les mêmes combats dans un contexte différent en Grande-Bretagne. Donc il y a lien entre la communauté noire en Grande-Bretagne et la Jamaïque. Deux histoires de confrontation, de protestation à travers la musique. Et puis, c'est Monsieur Clé dans cette histoire, c'est Don Letts. Don Letts qui était le DJ au Roxy début de 78. Et comme DJ au Roxy, il jouait des disques de reggae. Et c'est à travers lui, surtout, qu'on voit un lien entre le punk et le reggae. Et aussi, c'est une histoire très connue, mais il a rencontré Bob Marley à Londres, qui était à Londres. Et Bob Marley, qui était très sceptique par rapport aux punks. Le punk, pour lui, était au début le Babylone, le grand diable. Et c'est Bob Don Letts qui a expliqué que non, le punk, comme le Rastafarisme, était un rejet du système. Et c'est à la suite de ça que Bob Marley a écrit la chanson Punky Reggae Party, une alliance entre les deux. Et bien entendu, on voyait avec le clash, avec l'histoire de Notting Hill, un lien entre les punks et le reggae. Donc comme deux musiques de protestation dans un contexte économique qui est devenu de plus en plus difficile.
Alors, on va se rapprocher des années 80. Est-ce que vous diriez que c'est la décennie de l'apaisement ?
C'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça veut dire que peut-être c'est moins politisé, il y a moins de confrontation que pendant les années 60-70. Et ce n'est pas vrai, parce qu'on avait en Grande-Bretagne au début des années 80, surtout en 81, des émeutes partout dans les inner cities en Grande-Bretagne. Des émeutes qui étaient liées au racisme, mais liées aussi à la crise économique.
C'était les années Thatcher.
Oui, c'était des années Thatcher, qui étaient des années très dures. Il y avait la grève des mineurs. Il y avait aussi, par exemple, une loi qui était introduite par le gouvernement de Thatcher en 88 où c'était interdit d'enseigner d'une manière positive l'homosexualité. Donc c'était un contexte très 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 politisé. Mais nous, ce que nous on voulait montrer ici, c'était à ce moment, surtout avec les boîtes de nuit, c'était des lieux de fréquentation entre des communautés, entre des êtres humains. Donc la musique, c'était un moyen de se rassembler des gens, surtout des jeunes, et c'était vraiment des lieux multiculturels.
Vous parliez de 1988. Comment percevez-vous le méga-concert à Wembley en 1988 pour la libération de Mandela? Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que c'est une sorte de consensus universel?
Effectivement, ce qui est important, c'était le rôle joué par des musiciens noirs. Parce qu'on avait, 3 ans plus tôt, Live Aid, qui était souvent critiqué parce que c'était pour la charité, entre guillemets, pour l'Afrique. Mais il y avait en majorité, c'était que des musiciens blancs. Donc ici, c'était un moyen de présenter la musique d'une autre manière, avec des musiciens noirs, comme Tracy Chapman, comme Usain Dor. Le concert même était introduit quand même si c'était Lenny Henry, qui était un noir très important en Grande-Bretagne. Donc, en même temps, ça montre comment un grand changement, maintenant, une perspective multiculturelle est devenue de plus en plus ancrée dans les esprits des gens. Donc, comment on peut présenter Londres sans un aspect multiculturel? C'est impensable, impensable.
Quand on regarde ce concert et qu'on écoute ces artistes, on se demande si la musique a réellement le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Est-ce que Mandela a été libéré grâce à ce concert?
Non, pas du tout. Pas du tout, on ne peut pas dire ça. Mandela a été libéré pour plusieurs contextes. Il y avait la fin de la guerre froide, il y a aussi le contexte qui se passe en Afrique du Sud. Mais ce concert montre, c'est comment la lutte contre l'apartheid était aussi important sur le niveau international, mais aussi au niveau de Commonwealth. Il ne faut pas oublier le Commonwealth. Le Commonwealth multiracial qui est né pendant les années 50, en partie c'était un rejet d'Afrique du Sud qui a quitté le Commonwealth en 61. Et l'idée que l'apartheid c'était absurde, c'était totalement un rejet d'une certaine vision de Commonwealth. C'est comme ça que je vois des choses.
Quel est votre... on va dire, décennie ou salle préférée dans cette exposition?
En tant qu'historien, j'ai peur de la nostalgie, mais c'est en même temps, c'est marrant parce que moi, je suis né en 64, dans une certaine façon, je suis modestement impliqué dans cette histoire, je suis un peu un témoin. Et c'est vrai que pour moi, le moment Le Rock Against Racism est un moment important, très important dans ma propre vie. Par contre, pendant les années 80, j'ai passé 3 ans en France. En 84, j'étais à Montpellier. Et ça, c'était le moment avec le SOS Racisme et tout ça. Donc ça, j'ai beaucoup d'intérêt pour ça sur le plan personnel. Et puis par la suite, à la fin des années 80, j'habitais à Paris. Donc pour moi, c'est un peu une histoire mélangée. Une histoire mélangée, mais aussi... plusieurs lettres d'amour, une lettre d'amour à Paris, une lettre d'amour à Londres, mais aussi surtout à Brixton. Mon frère habitait là-bas pendant 30 ans et moi je fréquentais Brixton à partir des années, fin des années 60-70. Donc voilà, plusieurs lettres d'amour pour moi.
L'exposition se termine en 1989 sur le bicentenaire de la Révolution. Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Parce que c'est la fin de la guerre froide. En tant qu'historien, on essaye de réfléchir sur la chronologie, sur le changement, sur la dynamique historique. Et pour moi, il me semble que les deux villes sont maintenant définies par une diversité culturelle. On ne peut pas nier ça. Mais surtout, à partir de 1989, à partir de la fin de la guerre froide, c'est une autre époque. Parce que c'est ça le moment, pour moi, un autre stade de super diversité. À Londres, par exemple, c'est marquant que maintenant, on a une communauté algérienne. Souvent, des couples avec un père britannique et une mère algérienne, ou l'inverse. Alors voilà une société qui est très liée, le moins qu'on puisse dire, avec la France, mais maintenant, d'autres liens avec la Grande-Bretagne. Par contre, à Paris, maintenant, il y avait une communauté jamaïcaine très importante. Donc ça, c'est surtout à partir des années 89 qu'on a ce que moi j'appelle superdiversité. Superdiversité, c'est ça qui marque les deux villes.
En guise de conclusion, diriez-vous que cette exposition est un rempart contre les haines et la peur de l'autre ?
Bien sûr, ça montre comment on voit à travers la musique les liens et les rapports positifs entre les êtres humains. C'est ça l'histoire profonde à travers la nourriture et la capacité de la musique de casser les frontières.
Thank you so much, Mr. Martin Evans.
Thank you. Merci beaucoup.
It was a pleasure.
Thank you.
Don't you know we're talking about a revolution that sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution that sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no.
Tracy Chapman, Talking About a Revolution, c'est sur cet écho du concert pour la libération de Mandela en 1988 à Londres que nous allons nous quitter. Je vous rappelle que l'exposition Paris-Londres, Musique Migration 1962-1989 se tient jusqu'en janvier 2020 au Musée de l'Histoire de l'Immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris dans le 12e arrondissement. Merci aux équipes du musée de nous avoir si bien accueillis. Merci à Laurie Plisson pour les prises de son et à Nathalie Laporte pour la réalisation. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.